Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Invasion de la Russie en Ukraine. Aux côtés des Ukrainiens qui fuient leur pays dans des conditions extrêmement difficiles, se trouvent des étudiants de la RDC, témoignage de leur calvaire dans ce journal. Colère des magistrats du tribunal de grande instance de Lubumbashi. Ils exigent que les auteurs de l'arrestation de leurs confrères hier soient déférés devant la justice, faute de quoi ils ne reprendront pas du service. Notre invité, c'est le ministre des Droits Humains. Albert Fabrice Puella a lancé à Kalemi dans le Tanganyika les consultations populaires en vue de l'implémentation de la justice transitionnelle en RDC. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masserica, mise en onde de Jean-Claude Nsiala. La guerre que mène la Russie en Ukraine continue à contraindre des centaines de milliers de personnes à fuir vers des pays voisins comme la Pologne. Et très souvent, elles y parviennent avec beaucoup de difficultés. Aux côtés des Ukrainiens qui fuient leur pays pour chercher un abri ailleurs, se trouvent des Africains, y compris des étudiants congolais de la RDC. Chaque jour, ils témoignent de leur souffrance endurée dans leur tentative de quitter l'Ukraine. Explication de Jean-Francis Mouya.
La guerre en Ukraine entraîne un déplacement massif des populations vivant dans ce pays, chacun cherchant un endroit où s'abriter. Persing Kiala, l'un de ses étudiants congolais en Ukraine qui est présentement en route pour la France, parle des difficultés rencontrées pour entrer en Pologne.
On est arrivé difficilement en Pologne et tout le long du parcours, le traitement était inégal. C'était tellement difficile que certains de nos amis ont perdu leurs sacs. Certains les ont abandonnés et d'autres on les a volés leurs sacs. On a vécu un vrai calvaire. C'est même difficile pour moi de vous décrire tout ce qu'on a vécu. Je manque même les mots pour les décrire.
L'autre témoignage, c'est celui de Shilmpia Naja Baji. Il parle du calvaire enduré par son fils étudiant en Ukraine.
Il est arrivé à la frontière, il a fait au moins 3 jours. Arrivé en Pologne maintenant, il y a un Congolais qui est en Pologne là-bas, qui lui avait pris. Comme il boitait déjà, sa jambe a été endommagée. Il a pris mon fils pour lui amener à l'hôpital. Et à l'hôpital, on a remarqué qu'il n'était pas touché à la tête, sauf à la jambe. Et on lui a hospitalisé à ce moment ici. Il se trouve à l'hôpital.
Le vice-premier ministre chargé des affaires étrangères a, lors d'un échange en visioconférence hier mercredi, avec des étudiants de la RDC en Ukraine, réitéré le soutien du gouvernement en leur faveur.
La grève des professeurs des universités et instituts supérieurs est suspendue depuis hier après la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement. Leur association estime que les discussions ont permis d'obtenir des promesses fermes à leurs revendications spécifiques contenues dans le cahier des charges. Des précisions avec le professeur Frédéric Kinkani, l'un des négociateurs. Il a été joint par Priscilla Bajoko.
La grève est suspendue, comme nous avons estimé que les discussions étaient sur la bonne voie et au terme du protocole d'accord que nous avons signé sur certaines revendications spécifiques des professeurs, nous avons trouvé qu'il y avait des ouvertures du côté du gouvernement pour répondre avec les garanties que nous avons reçues d'abord par notre ministre de tutelle et par la suite par les autres membres du gouvernement impliqués dans le dossier et puis les garanties fermes du Premier ministre. Et donc, nous avons pensé qu'à ces actes, que nous reprenons avec nos activités traditionnelles d'enseignement et nous attendons bien évidemment dans les échéances que nous nous sommes fixées dans le protocole d'accord, qui sont des échéances assez courtes, nous attendons le gouvernement matérialiser ce que nous avons convenu.
Pour mémoire, cette grève avait débuté le 5 janvier dernier lors de la rentrée académique. L'université de Kinshasa se trouve fortement menacée par des têtes d'érosion qui exposent certains bâtiments à l'écroulement à la suite des fortes pluies. Le recteur de l'UNIKIN a lancé ce SOS hier lors d'un entretien avec le vice-président du Sénat, Eddy Mundela. Le professeur Jean-Marie Kayembe s'est dit confiant que des solutions seront trouvées pour éviter le drame comme à l'instar de celui de Matadi Kibala. Il est au milieu micro de Michel Kipinangoy.
Je suis venu présenter quelques doléances pressantes à l'honorable président du Sénat. Il s'agit notamment de la vétusté et la destruction très importante de la voirie à l'université qui risque de nous faire perdre, s'il y avait encore des pluies diluviennes comme celle de ces jours, une infrastructure acquise il y a plus de 60 ans, nous léguée par Mgr Gillon à l'UNIQUI. Je suis venu également faire état des conditions aujourd'hui d'études de nos étudiants. Nous voulons prévenir d'autres maladies qui balent, notamment en pensant à reconstruire correctement l'infrastructure électrique, mais également donner à nos enfants ici à l'UNIQUIM des conditions un tant soit peu humaines d'encadrement et d'enseignement. Je suis venu solliciter, c'est un véritable SOS auprès du Parlement, que ce SOS soit entendu.
Et puis la province éducationnelle Sud-Kivu 1 a présenté hier son plan d'action opérationnel à ses partenaires techniques et financiers. Ce plan prévoit la construction et l'équipement des nouvelles salles de classe et d'autres innovations. C'était à l'intention des inspecteurs chefs de poule, des coordinateurs des écoles conventionnées, des chefs de sous-division et des services techniques du secteur de l'éducation. Des précisions avec le directeur de la province éducationnelle, Simon Zono Inga, s'est confié à Jean-Claude.
Nous avons planifié la construction de 196 nouvelles salles de classe dans quelques sous-divisions. Nous avons également planifié la fabrication et la mise à disposition des écoles d'au moins 3300 bancs pupitres. Et aussi, nous avons prévu la construction au moins de 2192 portes de latrines hygiéniques. Toujours dans l'accès, il a été planifié la sensibilisation de près de 4000 élèves sur l'importance de l'éducation. Évidemment, nous le faisons grâce à l'appui financier des partenaires techniques et financiers comme l'UNICEF, World Vision, mais il y a aussi le Fonds social qui est en train de financer la construction des salles de classe. Et dans la qualité, il a été prévu entre autres la formation de 825 enseignants sur la réforme de programmes en lecture, écriture, en langue nationale, en mathématiques et en compétences de vie courante.
Autre nouvelle en plus bref, le pape François est attendu à Kinshasa le 2 juillet prochain pour une visite de 3 jours en RDC. La nouvelle est annoncée à la presse jeudi à la Caritas Kinshasa par le nonce apostolique en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Le nonce apostolique affirme que l'arrivée du souverain pontife sera l'occasion de raviver l'espérance du peuple congolais en quête de la paix, de la sécurité et du bien-être. Madame Mathilde Mihigo Ntakobanjira, spécialiste des droits de l'homme au Bureau conjoint des Nations Unies en droits de l'homme, a reçu ce jeudi le prix Femmes Avenir 2022. C'était au cours d'une cérémonie virtuelle en direct de Madrid, en Espagne. Madame Mathilde Mihigo Ntakobanjira s'est dit honorée de recevoir ce prix qu'elle dédie aux femmes victimes des atrocités. Elle est dit au micro de Fulbert Balolagué.
Pour moi, recevoir ces prix, c'est d'abord un honneur, mais surtout une responsabilité. Je pense que c'est vraiment un appel à moi pour poursuivre la lutte aux côtés des femmes, la lutte pour le droit de l'homme en général, la lutte pour le droit de femmes en particulier. Donc c'est un engagement que je pris depuis déjà une dizaine d'années d'accompagner les femmes dans la lutte pour la protection de leurs droits et surtout pour leur participation dans toutes les instances de prise de décision et surtout dans toutes les initiatives qui visent des actions de protection et de participation pour la mise en œuvre effective de leurs droits.
Ce prix, je le dédie à toutes les femmes qui m'ont accompagnée, qui sont comme mes mentors, mes modèles, qui m'ont accompagnée dans cet engagement. Mais surtout, ce prix, c'est pour toutes ces femmes, c'est pour toutes les survivants, les survivantes de violences sexuelles, de violences basées sur le genre, de violences conjugales, qui sont des femmes fortes, résilientes, déterminées et courageuses.
Notez que Femmes Avenir est une association d'amitié hispano-française qui a été née pour consolider la visibilité des femmes dans tous les secteurs de la société espagnole et française, conformément aux textes des Nations Unies. une vice-présidence à la tête du pays. L'idée est de Madame Marie-Ange Lukiana Mufankolo, ancienne ministre et actuelle députée nationale. C'était ce jeudi lors des journées portes ouvertes sur la résolution 1325 organisée par le système des Nations Unies en RDC. Pour l'élu de Kinshasa, il serait souhaitable que la constitution du pays qui prône la parité à tous les niveaux de responsabilité soit amendée pour ainsi permettre l'élévation de la femme congolaise au sommet de l'État. Elle s'est confiée à Honoré Missenga Kalala.
D'abord, notre loi fondamentale elle-même, la Constitution, prône la parité, 50-50, à tous les niveaux. Et si nous voulons respecter l'esprit et la lettre de notre Constitution en ce qui concerne la parité, la conséquence logique, c'est de prévoir aussi deux places au niveau de l'institution président de la République. Il y a déjà le président dans la Constitution, il manque la vice-présidence. Il y a plusieurs pays qui sont organisés comme ça à la présidence. Et de deux, ça donnerait une occasion aux femmes aussi de siéger à ce niveau-là et d'apporter leur vision complémentaire. Et comme vous le savez, la vision de la femme, c'est généralement la paix, le dialogue, la quiétude, l'entente, et ainsi de suite, même si vous regardez sur le plan informel, pour travailler ardument pour l'économie informelle, c'est la femme.
À l'idée qu'une telle modification de la Constitution ferait basculer le pays vers un système présidentiel, Marie-Ange Lukiana pense que cette option peut améliorer l'image de la femme dans la société et réduire en même temps les velléités des violences. Les magistrats de Lubumbashi sont en colère. Ce jeudi matin, la plupart d'entre eux n'ont pas travaillé. Ils dénoncent l'arrestation de leurs confrères par les agents de l'Agence nationale de renseignement ANR qui l'ont torturé dans leurs locaux avant de les libérer hier soir. Ils exigent que les auteurs de ces actes soient déférés devant la justice, faute de quoi ils ne reprendront pas du service. Et c'est ce qu'affirme le délégué des magistrats au tribunal des grandes instances, Aimé Mabuisa Makengo, a été interrogé par Jean Gandou.
Le magistrat a été enlevé avec un autre avocat qui était devant lui pour un autre dossier. Suite à un dossier judiciaire qu'il était en train de traiter, le magistrat a été torturé, molesté sérieusement. Voilà c'est pourquoi les magistrats sont en colère. C'est comme si on était dans un état bananière pour que les gens puissent se comporter de la sorte. Alors que nous sommes dans un état de droit qui est prôné par le président de la République lui-même. On lui reproche le fait seulement pour les magistrats d'aller auditionner trois agents qui étaient déjà arrêtés pour des faits qu'ils avaient commis contre une dame, des coups et blessures, et atteinte aux bonnes mœurs. Le magistrat, en sortant, on l'a récupéré par ces groupes des agents de ANR Kamalondo. On l'a séquestré dans leur bureau. On est venu les sauver par des policiers. Ces agents-là de l'ANR ont été condamnés par le tribunal à une procédure de flagrance condamnée à 5 ans de servitude pénale. Les autres se sont fâchés. Ils disent non, ça nous devons le prouver que nous sommes au-dessus de 35. Si on ne craint pas la justice, on va craindre quoi?
Économie à présent. En Ituri, la Fédération des entreprises du Congo FEC, antenne de Mambasa, salue la réhabilitation par la société Gerison de la route Mambasa-Biakato-Beni, longue d'environ 150 km qui relie cette province au nord Kivu. Pour le responsable de la FEC, cela va intensifier le trafic et permettre ainsi aux opérateurs économiques d'écouler leurs marchandises. Reportage à Bounia de Jean-Claude Lokidile.
C'est là la nouvelle société civile, l'antenne de Mambasa, les tronçons routiers Mambasa-Biakato-Beni sur la route nationale numéro 44 est d'une importance capitale pour la population de cette région. Les conducteurs de mototaxis et des véhicules de transport en commun mettent moins de temps qu'auparavant pour atteindre la destination. Mombere Usahiro, un taximen de moto, vient de parcourir ce tronçon avec son client.
On peut faire peut-être au moins 4 heures de temps. Avant, on faisait 8 heures de temps, soit 7 heures. En tout cas, nous sommes très contents.
Un projet qui vient mettre fin au calvaire de la population qui devait chaque fois passer par la barrière de Luna pour atteindre le nord Kivu, ce qui coûtait plus cher aux usagers de cette route à cause de la longue distance à parcourir. John Vuleverio, le coordinateur de la nouvelle société civile de Mambasa, se réjouit de la baisse de prix de transport.
Un passager, il devait payer plus de 70 dollars, mais aujourd'hui, vous avez 20 dollars, vous arrivez à Beni.
Le président local de la Fédération des entreprises du Congo estime que plusieurs coins seront dorénavant ravitaillés en marchandises. À leur tour, les paysans peuvent facilement écouler leurs produits de champs vers les marchés. Freddy Kambale.
Donc ça aura plus d'impact vraiment même chez nous les commerçants, même à la population pour retirer leurs marchandises, leurs cultures.
Tous déplorent cependant l'érection des barrières sur la route par des militaires de FADC où il faut débourser de l'argent avant de passer. Bounia, Jean-Claude Loki, d'Ilé Radio Capi.
Hausse de prix du maïs et du manioc dans la ville de Bandundu, chef-lieu du Kwilu. Un sac de maïs se vend actuellement à 75 000 francs congolais au lieu de 55 000 francs congolais d'il y a quelques jours. Le sac Mbadi est passé de 35 000 à 40 000 francs. Les vendeuses justifient cette hausse de prix par la rareté de produits à Bandunduville, Irène Bomain.
Nous sommes au port Kankoreman situé dans la commune de Bassoko à Bandunduville. Ici, nous constatons ce jeudi la rareté du manioc et du maïs qui, selon les vendeuses, a entraîné la hausse des prix de ces aliments de base. On achetait un sac de maïs à 50 ou 55 000 francs. Mais maintenant, ils nous vendent ça à 65 ou 68 000 francs congolais. C'est pourquoi nous aussi, nous avons augmenté le prix à 70 ou 75 000 francs congolais. Une mesure se vend maintenant à 700 ou 800 francs congolais. D'abord, ça coûtait 500 ou 550. Un sac de manioc, nous vendons à 40 000 francs congolais. Il y a hausse des prix parce que ces produits sont devenus rares. Ces femmes attribuent cette rareté des produits à la période de culture et à la présence des commerçants qui achètent toute la marchandise au port pour aller revendre à Brazzaville. Le maïs ne vient plus parce que les cultivateurs sont en train de s'aimer. Et aussi les Brazzavillois viennent acheter tous les maniocs et les maïs pour amener à Brazza. Du coup, les terrains restent vides. Quand nous achetons par exemple un sac à 50 000, mais ils achètent à 55 voire 60 000 francs. C'est pourquoi le prix a augmenté. Il y a lieu de signaler que cette hausse des prix de ces produits de première nécessité inquiète au plus haut point certaines ménagères rencontrées au port. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Ouverture ce jeudi à Oando, au nord de Congo-Brazzaville, d'une conférence politique de 4 jours pour le gouvernement. Ces assises vont permettre aux délégués des différents partis politiques de dialoguer sur la tenue des élections législatives prévues au mois de juillet prochain. Seulement voilà, cette rencontre est boudée par l'opposition. Ouverture également ce jeudi de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine à la frontière biélorusso-polonaise. Au menu, un cessez-le-feu immédiat, un armistice et de couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils des villes et villages qui ont été détruits ou constamment bombardés par l'armée russe. C'est ce qu'annonce en tout cas cet après-midi un conseiller à la présidence ukrainienne qui a même publié une photo des membres des deux délégations à la table des négociations. Et puis Emmanuel Macron va a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle française de 2022 dans une lettre adressée aux Français. Une lettre qui sera mise en ligne ce jeudi soir. C'est ce qu'annonce son équipe de campagne, confirmant les informations de plusieurs médias.
L'invité.
Notre invité, c'est le ministre des Droits Humains, Albert Fabrice Puella, a lancé à Kalemie dans le Tanganyika les consultations populaires en vue de l'implémentation de la justice transitionnelle en RDC. Il s'entretient avec François-Xavier Mibé.
Monsieur le ministre Albert Fabrice Puella, bonjour.
Bonjour.
Vous clôturez juste aujourd'hui votre visite de travail en province du Tanganyika par le lancement officiel sur la justice transitionnelle. Quelle année l'impression que vous avez aujourd'hui?
Merci beaucoup. Nous avons un sentiment d'un premier devoir accompli. Nous avons accompli les devoirs pour lesquels le chef de l'État nous a envoyé en mission, c'est-à-dire lancer officiellement les consultations nationales en vue de l'implémentation de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo.
Pourquoi les choix du Tanganyika, monsieur le ministre?
La province de Tanganyika était le théâtre de grandes atrocités, des grandes tueries, des grands viols, des actes innommables, indescriptibles, où des communautés se sont rentrées dedans, se sont entretuées, il y a eu des destructions des biens, il y a des gens qui ne pouvaient plus se regarder. Mais avec l'effort du chef de l'État dans le cadre de la justice transitionnelle, les populations commencent à se tolérer. Mais devant ces problèmes, il ne fallait pas se taire. Il y a eu des atrocités, c'est vrai, partout à travers la République, mais on s'est dit il faut qu'on choisisse une agglomération de l'Est, du Centre et de l'Ouest, c'est-à-dire Matadi, mais aussi en filigrane de Kalemie, nous pourrons aussi lancer les mêmes processus au niveau de Goma. C'est pour amener le processus de paix, le processus de pardon, le processus d'abord, avant même le pardon, la vérité. Il faut que les gens sachent ce qui s'est réellement passé dans ces atrocités connues à travers la République, pour enfin faire jouer le pardon. Mais le pardon ne viendra pas sans justice. Il faut que ceux qui sont coupables, ceux qui pèsent des charges, des lourdes charges ou des indices de culpabilité qui répondent de leurs actes. C'est alors que, en reconnaissant les torts que l'État a failli, l'État n'a pas été présent pour défendre la population, l'État est disposé à réparer. Cette réparation pourra être psychologique, elle pourra être matérielle, elle pourra être individuelle comme elle pourra être collective. Mais la même réparation ne peut pas valoir pour toutes les victimes. Les victimes de Mwenga, de Kakobola, de Beni ont leurs besoins qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la population de Mwanda, de Matadi, de Luozi, victimes des affres du phénomène Bundu du Congo comme de Kasai avec la nébuleuse Kamuina Sapu.
Puisque vous en parlez, monsieur le ministre, mais quel est l'engagement que vous attendez des autorités provinciales pour accompagner ces processus?
L'engagement des autorités provinciales, c'est de faciliter la tâche aux enquêteurs parce que nous avons formé des superviseurs avec des fonds propres du ministère des droits humains. Nous attendons du gouvernement provincial l'accompagnement justement de ces enquêteurs afin que le travail se fasse très bien, que ces enquêteurs soient sécurisés dans leur travail.
Croyez-vous vraiment à la réussite de ce projet?
Oui, nous y croyons dur comme fer. Nous, avec le chef de l'État et le Premier ministre.
Qu'est-ce qui vous le fait croire, monsieur le ministre?
Parce que nous avons noté auprès des uns et des autres une volonté manifeste d'enterrer la hache de la guerre pour nous adonner au développement des noms différentes provinces. Parce qu'il y a certaines guerres qui se sont avérées des guerres inutiles. Personne n'a gagné, personne n'a perdu, mais on compte des milliers de morts. C'était des morts inutiles et il faut s'asseoir et parler de la paix. Parce que tant qu'on ne se mettra pas ensemble, on ne saura pas être développé. Regardez une très belle province comme celle de Tanganyika ici, une belle ville comme Kalemie, avec des grandes opportunités d'affaires. Il y a des frontières avec trois pays voisins. Mais comment les investisseurs viendront lorsque il y a des tueries, lorsqu'il y a des coupeurs de route, lorsqu'il y a l'intolérance entre la population? Ce serait un leurre de penser que les investisseurs viendraient dans un tel contexte.
Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui?
Ce qui reste à faire aujourd'hui, justement, c'est de déployer ces enquêteurs sur le terrain pour rencontrer les communautés bantoues et toi et connaître les différents problèmes, la genèse, afin d'éviter la résurgence de ces mêmes problèmes et pouvoir avancer, mais aussi connaître les besoins en termes de réparation des uns et des autres.
Monsieur le ministre Albert Fabrice Pouela, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Capi, le ministre des Droits Humains, Albert Fabrice Pouela, a été interrogé à Kalemie par François-Xavier Mibé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Élisée Tikota Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelle Kipela Mondo. Retrouvez-les sur www.radiocapi.net.